franceinter.fr.
Il est 8h23.
Le 7-9, Patrick Cohen sur France Inter.
Bonjour Elisabeth Badinter.
Bonjour.
Historienne et philosophe, qu'est-ce qu'il évoque pour vous ce mois de novembre 74 et ce moment de grande passion que fut le débat et... que furent le débat et l'adoption de la loi sur l'IVG?
Il y a deux réactions. Il y a d'abord un dégoût profond de propos qui ont été entendus à l'occasion de cette loi à l'Assemblée nationale. Un dégoût, même, on a entendu des ignominies. Donc il y a ce souvenir-là de l'attaque d'une femme sur des points inadmissibles. Et puis, il y a aussi, je dois le dire, un immense bonheur, une immense... soulagement pour les femmes. Je pense que cette loi est certainement l'une des plus importantes dans l'histoire, pour l'histoire des femmes, parce que ça a opéré un double renversement. Le premier renversement, première révolution, c'est que c'était la femme qui décidait seule de ce qu'elle allait faire, de la
liberté
reproduction
de disposer de son corps.
Et je voudrais rappeler aux auditeurs qui peut-être ne s'en souviennent plus, c'est pas si loin. Le temps où, quand il y avait un accouchement très difficile, on demandait au père, faut-il sauver la mère ou l'enfant? Ce qui est quand même aujourd'hui absolument stupéfiant. Ça voulait dire simplement qu'en dernier ressort, c'était quand même lui qui décidait. Donc ça a changé radicalement le statut de la femme. Ça a été un pas immense vers, la fin d'une aliénation. Et puis un autre renversement, dont on parle souvent peu, c'est que finalement cette loi a donné un nouveau statut à l'embryon. Jusque-là, on savait bien qu'il y avait l'embryon, 60 premiers jours, puis le fœtus. Mais il a été décidé par la loi que quand l'agglomérat, de cellules était fécondé, donc c'était on ne pouvait pas comparer le sort de ce agglomérat avec le sort d'une femme.
Avec une limite fixée à 10 semaines.
Avec une limite fixée à 10 semaines, ce qui voulait dire aussi 12 semaines après les dernières règles. Donc finalement, on a réalisé quelque chose qui pour nous est évident aujourd'hui, c'est que entre quelques cellules invisibles à l'œil nu, le sort de ces cellules et le sort d'une femme, d'un individu et de sa vie, il n'y avait pas comparaison possible. Donc c'est vraiment un double renversement.
Vous soulignez un renversement qui est, si je puis dire, des sens philosophiques,
oui,
profondes. Dans les débats de l'Assemblée nationale à l'époque, il en a été assez peu question de cette perspective-là. Il était plutôt question du drame de ces jeunes filles, plusieurs centaines de milliers par an, qui recouraient aux faiseuses d'anges dans des conditions sanitaires souvent épouvantables, ou pour les plus chanceuses ou les plus fortunées qui se faisaient avorter à Amsterdam. C'est de cela dont il était question, et surtout dans le discours de Simone Veil.
L'égalité entre les femmes. L'égalité devant la possibilité de choisir sa vie et de si on voulait ou non élever un enfant. C'est vrai qu'il y avait une véritable inégalité, mais si vous lisez une femme comme Benoît de Groult, elle vous dira qu'elle a avorté 11 fois toute seule ou dans des conditions absolument abominables. Or, elle n'était pas non plus parmi les plus misérables des misérables. C'est-à-dire que finalement, il y avait, surtout il y a 50 ans, il y avait quand même très peu de femmes qui pouvaient partir en Suisse ou en Angleterre. Et donc la plupart des femmes, la majorité des femmes, et ça c'est une chose très importante, c'est que Simone Veil a eu derrière elle l'immense majorité des femmes.
Alors vous avez évoqué il y a quelques minutes la violence et parfois la haine qui ont régné pendant 3 jours à l'Assemblée nationale. Je voudrais qu'on entende le témoignage sonore de cela, parce que ce sont des interventions dont on a souvent parlé, mais qu'on a peu entendues. Elles n'ont pas été filmées. Voici donc quelques moments du débat parlementaire face à Simone Veil, débat d'il y a 40 ans.
N'en doutez pas, déjà, des capitaux sont impatients de s'investir dans l'industrie de la mort. Et le temps n'est pas loin où nous connaîtrons en France ces avortoirs, ces abattoirs, où s'entassent des cadavres de petits d'hommes et qu'un certain nombre de nos collègues ont eu l'occasion de visiter à l'étranger.
Mes chers collègues, permettez-moi de vous faire entendre un enregistrement
d'un cœur de fœtus de 8 semaines et 2 jours. En France, comme partout, le commerce de la mort deviendra la spécialité lucrative d'avorteurs et d'avortoirs patentés, où l'on se préoccupera, comme on le fait déjà en Angleterre, de la revente des fœtus avortés à des usines de traitement des graisses animales, où l'on procédera, comme on le fait déjà dans les pays qui ont légalisé l'avortement, à des expériences dites scientifiques sur les fœtus encore vivants. Cela ne s'appelle plus du désordre, madame. Cela ne s'appelle même plus de l'injustice. C'est de la barbarie organisée et couverte par la loi, comme elle le fut, hélas, il y a 30 ans, par le nazisme en Allemagne.
C'était à l'Assemblée nationale, il y a 40 ans, que vous avez entendu successivement Jean Foyer, l'ancien garde des Sceaux du général de Gaulle et ancien ministre de la Santé. Il fut l'un des prédécesseurs de Simone Veil. René Feit, qui était député giscardien du Jura. Et puis le dernier qui parle de barbarie nazie, Jacques Médecin, le député maire de Nice. Elisabeth Valinter.
Deux choses. La première, c'est que tous ces messieurs ne parlaient que justement de l'embryon et jamais des femmes, jamais du sort des femmes. Et la deuxième chose qu'on peut noter, c'est qu'il y a une volonté évidente de blesser Simone Veil. Faire le rapport entre l'avortement et le nazisme, c'était une façon de la gifler. C'était absolument abominable.
Il y a même un député à l'époque dont j'ai... Jean-Marie Daillet, dont je n'ai pas retrouvé l'enregistrement sonore, qui a évoqué dans l'hémicycle, face à Simone Veil, les camps de concentration pour les embryons. Il y avait, en dehors de la politique, deux institutions très opposées à la loi et qui ont mené le combat. L'Église, d'autre part, et on peut dire que toutes les religions, sauf les protestants, étaient opposées à la libéralisation de l'avortement. Et puis, l'Ordre des médecins. Il faut se souvenir que le président de l'Ordre des médecins, à l'époque, le professeur Lorta Jacob, menaçait d'exclure les médecins qui pratiqueraient l'avortement ou de créer deux catégories de médecins, la catégorie ordinaire et puis les avorteurs de l'autre côté. C'était assez, assez dur, assez violent aussi.
Oui, et c'était très important, parce que comme vous dites, cette condamnation des médecins qui pratiqueraient des avortements, c'était pour les médecins qui voulaient le faire, du coup, un acte vraiment d'une immense courage. Et beaucoup pouvaient dire, ben non, je ne peux pas me mettre l'ordre des médecins à dos. Mais tout le monde sait aussi que l'ordre des médecins, à l'époque, en tous les cas, était atrocement réactionnaire. Simplement, je voudrais souligner que, en ce qui concerne, si l'ordre des médecins a changé, a évolué, je pense qu'il y a au sein de l'Église beaucoup de gens qui n'ont pas changé. Et il suffit de voir des manifestations que je trouve plus nombreuses maintenant qu'il y a quelques années, de militants pro-vie devant l'Assemblée nationale. Il y a une dizaine d'années, ils étaient une vingtaine. Ils sont beaucoup plus aujourd'hui quand ils manifestent. Donc il y a au sein de l'Église vraiment un mouvement qui n'a pas évolué à propos de l'avortement.
Encore un mot sur cette loi de 1974. Il faut rappeler que c'était une loi provisoire qui a été adoptée pour 5 ans. Ensuite, elle est devenue...
C'est Madame Pelletier qui
l'a... En 79, 5 ans plus tard, ça a été entériné. Mais elle a connu une évolution récente, puisque il y a quelques mois, les députés, les parlementaires ont supprimé la notion de situation de détresse pour justifier d'une demande d'avortement. C'était dans la loi Égalité homme-femme.
Oui, c'est peut-être pas égalité homme-femme. C'est en tous les cas, c'est d'une certaine façon la fin de l'argumentation de Simone Veil. Elle a pu faire passer cette loi justement en attirant l'attention sur la détresse des femmes, sur ce qui leur arrivait, sur les morts, les blessures, etc. Donc tout son discours, et c'était très politique, elle avait raison, et était justement autour de la notion de détresse féminine. Et c'est intéressant de voir que 40 ans plus tard, on a trouvé que c'était presque un prétexte et qu'on n'avait pas à juger de l'extérieur de la détresse ou non des femmes et qu'elle seule avait à en juger.
La détresse fait partie des éléments qui ont été introduits, je crois, dans le dialogue qu'il y a eu à ce moment-là entre Simone Veil, le gouvernement, et puis les députés de la majorité que Simone Veil tentait de convaincre pour voter sa loi. Elisabeth Beninter avec nous jusqu'à 9h05. On va poursuivre ce débat. On va l'élargir aussi à la situation qui est celle d'autres pays d'Europe dans quelques minutes, à 8h40. Et puis on aura le dialogue avec les auditeurs de France Inter et le témoignage également d'une des initiatrices, j'ai du mal à le dire, du manifeste des 343 qui avait été publié par le Nouvel Observateur.